Raconte-moi, une immersion au pôle EHPAD de l'hôpital de Périgueux. Une série de 3 podcasts écrits et réalisés par Marie-Jeanne Amour. Pendant 3 mois, j'ai animé des temps d'écriture et d'échange au sein du tiers-lieu L'Atelier du centre hospitalier. Micro en main, j'ai collecté des témoignages que j'ai ensuite réunis pour créer la série de podcasts Raconte-moi. Épisode 2. Partage et transmission.
Dans nos groupes, ça va de 96 ans, voire des centenaires à des moments, jusqu'à une quarantaine d'années. Et pour moi, l'intergénérationnel, elle est hyper présente parce qu'entre 100 ans et 40 ans, on a quand même des générations qui sont passées.
J'aime beaucoup être au tiers-lieu parce qu'ils nous racontent des choses qui sont votre passé, votre vie. Et je trouve ça toujours très intéressant.
Cet espace a été imaginé pour que les résidents et les personnes extérieures puissent se rencontrer dans un lieu ouvert à tous.
Ouvrir l'EHPAD sur l'extérieur, sur le quartier, sur la cité et de permettre ainsi à l'ensemble des résidents de l'EHPAD de faire avec, de faire ensemble, de faire sens et de collaborer avec le quartier et ses habitants. L'idée est de faire tomber les murs de l'institution qu'on appelle EHPAD, qui est un lieu de vie à part entière.
Dans ce nouvel épisode, vous entendrez, en plus des participants de l'atelier, les témoignages de résidents que je suis allée rencontrer directement dans leur quotidien au sein des différentes unités du pôle EHPAD.
J'ai 100 ans depuis le mois de février et tous les jours je sors, à moins qu'il pleuve, tout ça. Et sans quoi je sors tous les jours, des fois 2 fois par jour.
Raconte-moi, épisode 2, partage et transmission.
Il faut aussi penser aux personnes âgées qui peuvent être eux-mêmes des acteurs de cette transmission de savoir. Ce partage d'expériences, d'éducation, etc. Et ça, je n'avais pas du tout pensé, parce que pour moi, l'EHPAD, c'est vraiment quelque chose où, à la base, je pensais que c'était vraiment quelque chose où tu mettais tes grands-parents ici ou tes parents ici, parce que tu n'avais pas les moyens de t'en occuper. Et donc, ils étaient un peu dépendants et ils ne pouvaient pas trop bouger, pas trop parler, on ne pouvait pas savoir ce qu'ils voulaient eux-mêmes dans le fond. Mais au final, non, on découvre des personnes qui sont bien vivantes, qui savent réfléchir. Et c'est un bonheur.
Les personnes âgées, actrices de la transmission. Les paroles de Sacha, service civique au tiers-lieu, ont tout de suite résonné en moi. Dans un monde en quête de sens, créer du lien entre les générations pourrait devenir un puissant outil pour renforcer les liens sociaux.
La vie, c'est un sacré passage.
C'est un sacré passage.
Un passage, c'est tout.
Avancer dans l'âge pourrait se comparer à l'ascension d'une montagne. Plus on avance, plus la vision s'élargit.
C'est pas où on va, ou à part qu'on lutte contre la montagne.
Lutter contre la montagne. Mais comment faire? Je leur ai posé la question. Quel conseil, s'ils ne devaient en retenir qu'un seul, transmettraient-ils aux jeunes générations?
Moi, j'ai jamais fumé. Une fois qu'on était en sortie des copines d'école, vous voyez, comme ça qu'on était en soirée, et ils disent, tiens, essaye, mais vous savez, j'ai allumé la cigarette, mais non, j'ai pas refumé. Mais j'avais un mari qui fumait, ça donnerait pas envie de fumer maintenant, parce qu'il a eu un cancer à la gorge. Ben oui, moi j'ai jamais fumé, ça m'a jamais fait envie, hein. Je vois les autres fumer, ça ne me fait rien.
Un très vieux monsieur, mais oui, j'ai 94 ans, je vais sur 95 ans. On a tous, au cours de notre vie, envie de faire des choses, et puis on trouve toujours des prétextes pour ne pas le faire, bien souvent. Hein. Des bons prétextes ou des mauvais prétextes, on ne le fait pas, pour ci ou pour là. Mais moi, je dis qu'il faut satisfaire. Quand on a bien envie de quelque chose, il faut le faire. Parce que quand on est plus âgé, après que ça arrive, il vaut mieux vivre avec des bons souvenirs qu'avec des regrets de ne pas l'avoir fait.
Oh, mais il faut avoir du caractère. Attention, j'en ai beaucoup de caractère, moi. Et je l'ai encore. Je ne suis pas là pour la tête qui est tournée devant les vierges. Ma tête est bien droite.
J'ai le droit de vous demander quel âge vous avez?
Moi, 95 ans. À 90 ans, je faisais encore mon jardin. Il y en a qui disent qu'ils ne sont pas heureux à la campagne. Moi, je dis qu'on est bien.
La vie, c'est un éternel combat. On est toujours de l'avant. Parce que j'étais une fonceuse. Et j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Parce que quand je faisais quelque chose, et j'étais très heureuse de ce que je faisais. Et ça m'apportait un bonheur immense. Et à ceux qui m'entouraient aussi.
Faire vraiment quelque chose qu'on a envie de faire. De ne pas dire oui, je le ferai demain. Quand on a quelque chose dans la tête, il faut le faire. On le perd, après on n'a plus le temps de le faire, et attendre demain, on ne sait jamais ce qui se passe.
Il y a un proverbe arabe qui dit « Mon père était marchand de poussière, il a été ruiné par un coup de vent. » Mais que plus on file les choses légères, moins elles auront de dureté dans le temps.
C'est une génération où ils participaient beaucoup aux travaux. Ils participaient à la vie de la maison. Ils n'étaient pas vraiment comme là, maintenant, en dehors. Ils n'ont pas cette dynamique. Est-ce que je vais y arriver ? En arrière-plan, il y a beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que ça va être possible pour moi ? Tu vois, il me semble que c'est quelque chose qu'on doit construire depuis l'enfance. Donner confiance à l'enfant par un partage d'activités, par un partage de choses concrètes. Et ils ne sont plus tellement dans des choses concrètes. Ils sont beaucoup dans des choses qui sont loin d'eux, quoi. Et je crois que ça a créé une lacune de confiance en eux.
Maintenant, notre génération, ça n'a rien à voir. Et du coup, bah, c'est beau d'entendre tout ce qu'ils ont vécu, même leur façon de faire avant, enfin leur vécu, quoi. C'est complètement différent que maintenant. Puis il y en a qui apprécient notre génération de maintenant et d'autres non. Et c'est bien de savoir le pourquoi du comment.
Une transmission n'est jamais neutre. Elle dépend du vécu, des croyances et de la réalité dans laquelle évolue celui ou celle qui la transmet.
C'était mieux avant, pas maintenant, et je le pense. Je préfère à l'époque d'avant. Moi.
Pas pareil. Des fois, je leur dis, moi, j'ai dit, dans le temps, c'était pas comme ça. Mais oui, mais c'est comme ça.
Est-ce que la vie était plus facile autrefois ? Je sais pas, je l'ai pas vécu. Donc, répondre à ça, ça serait une grosse bêtise.
Les écarts de mode de vie entre les générations peuvent parfois rendre difficile la compréhension et l'acceptation de l'autre. L'avènement des nouvelles technologies, et le téléphone en particulier, ont fait débat au sein du groupe.
Ça a été trop vite.
Celui qui a inventé le téléphone... Il n'était pas bien malin parce qu'il y avait personne qui appelait.
L'époque de maintenant, c'est... les gosses, ils n'écoutent plus rien. Avant, nous, on n'avait pas les smartphones et tout le tralala. Ça se passait bien. Maintenant, avec les smartphones, t'envoies un MMS, tu peux les effacer aussi. Parce que le courrier, ça se garde.
On n'écrit plus. Moi, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup reçu.
Ils ont joué, tout ça, ils ont leur tablette là et ils ne font rien d'autre. Que regarder la tablette. Nous, on n'avait pas ça, la tablette. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait débrouiller pour s'amuser. Eh bien, on n'avait pas pour jouer aux osselets. C'était vieux, ça. On n'avait pas d'osselets, toujours. Eh bien, on prenait des cailloux.
Ce qu'il y a maintenant, c'est que les portables, il n'y a que ça qui compte. Alors, quand vous mangez ou vous allez au restaurant ou n'importe, eh bien, il n'y a pas de conversation. Tu vois, les gens, ils ont leur portable. Tac, ils ne se parlent plus. Et tous les gens viennent. C'est tout juste si qu'est-ce que vous voulez s'ils répondent. Voilà. Il n'y a plus de contact, il n'y a plus rien. Même des fois, on se demande même s'ils sont là.
Je ne voudrais aucun portable dans ses poches. Voilà. Les mots, ils passent comme ça, là, comme si c'était un train.
Et quand on donne aux petits-enfants... on leur supprime le téléphone, c'est de l'utopie. Je ne pense pas que ce soit mal, mais la façon dont les gens font, je pense que c'est de l'utopie.
Je ne me verrai pas sans téléphone, parce qu'il me semble que ça me relie, que je peux appeler si j'en ai besoin. Mais ce n'est pas pour ça que je l'appelle, mais il est là.
Quand je vois les enfants qui ont des téléphones portables, et ils sont à la même table, et ils s'envoient des messages... Et je trouve que ça ressemble, tu sais, aux petits mots qu'on faisait,
quand
nous,
qu'on se glissait.
La réaction, est, tu vois sur le visage, tu vois ta copine, t'es de l'autre côté, tu lui envoies son message, tac, elle lit le message, tu vois la tête qu'elle fait. Je trouve qu'il y a quand même, le transport n'est pas le même, l'outil n'est pas le même, mais on blague, on sait que l'autre ne l'entend pas, on sait que les copains ne l'entendent pas. Je trouve, tu vois, qu'il y a quand même pour eux un plaisir, la cachette est là, il y a ça. Donc il y a des outils, c'est
qui
toujours...
Qui pourraient être réhabilités. Ouais.
Le transport est différent, mais l'intention reste la même. Et si nous considérions l'intergénérationnalité non plus à travers le prisme du clivage, mais à travers celui qui nous unit, qui nous rassemble. Ce n'est pas toujours simple d'accepter l'autre dans ce qu'il est. Au cours de nos échanges, les participants ont mis en avant un système de valeurs qui leur apparaissait comme nécessaire au vivre ensemble. Je leur ai demandé à chacun quelles étaient les qualités indispensables à avoir et à l'inverse les pires défauts qui les empêchent d'entrer en contact avec l'autre.
L'intolérance, parce qu'on commet beaucoup de crimes en son nom.
La folie, c'est un défaut. Il y en a qui en profitent. Qui en profitent, c'est comme ça. Prise de cœur.
La vérité, elle n'est pas toujours bonne à dire.
Oui, la malhonnêteté, oui. Et le mensonge aussi. Et pas s'occuper des autres aussi.
Mais moi, ça serait la médisance et la méchanceté, que je n'aime pas. Parce que je trouve que vraiment, on peut vivre sans. Hein. Et quand on le rencontre, c'est bien déplaisant.
De ne pas respecter les autres. Oui, même s'ils ne le méritent pas.
Le manque de respect. Quand j'avais ma boulangerie, j'avais une personne qui ouvrait la porte comme ça, elle rentrait devant un pain. Comme ça, elle disait ni bonjour, ni merci, ni au revoir. Et ça, je l'ai vécu.
C'est ne pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'ils fassent pour nous. Que les choses soient équilibrées.
Mais être là pour les autres. Au moins le rendre à ceux qui nous ont fait ça. Moi, on m'a aidé hein, quand je suis arrivée à la maison de retraite, mais j'ai fait pareil. Hein.
Être bienveillant, parce que vous savez, au fil des années, on a appris à changer beaucoup de mots.
Mais c'est se mettre à la place des autres.
Pareil, le respect.
L'amour, d'un cœur. L'amour, comme Serge.
Il faut se dire que plus tard, les enfants, ils reprennent ce qu'ils ont vu chez eux, l'exemple que vous avez fait, ils le reprennent après, plus tard, pour eux aussi.
C'est comme l'amour, c'est de la transmission aussi. Voilà, si vous avez beaucoup d'amour dans votre enfance, et bien voilà, vous pouvez en redonner autant.
C'est comme l'amour, c'est de la transmission aussi. Je suis d'accord avec Françoise. L'amour est un formidable vecteur de partage et de transmission. Depuis la nuit des temps, quel que soit notre âge ou notre condition, l'amour nous donne des ailes.
La chanson le dit bien, mais je ne me rappelle plus.
Ah oui, et bien c'était avec...
À quoi l'amour s'explique pas. C'est ça, c'est vrai. C'est une chose comme ça. On vient, on va, on ne sait d'où, et vous prend tout à coup. Moi, j'ai entendu dire que l'amour, ça fait souffrir.
Personne n'a connu le grand amour.
Ah, vous l'avez pas vécu encore? Pourtant, il faut pas.
Ça vient.
Oui,
je le crois.
Ça peut se transformer comme ça, ouais, en quête. En fait, on le chasse. Toute notre vie, on chasse le grand amour.
Oh, ben, en principe, on s'aime à soi et après on trouve l'amour fou.
Si vous vous aimez plus que l'autre personne, il va y avoir un problème au bout du compte. C'est de l'égoïsme. De toute manière, il faut le regard de quelqu'un d'autre pour s'aimer. Mais non, mais autrement, on ne peut pas.
On ne peut pas.
On ne peut pas s'aimer soi-même. Alors, il faut être l'ego. Alors là, je peux vous dire qu'il est... Si on n'a pas quelqu'un en face de nous... Justement, pour contrôler tout ça.
La première fois, c'était le fiasco. Et la deuxième fois, c'était l'amour. Dans le travail, on était vraiment en osmose, les deux. C'était formidable. Maintenant, il est parti. J'y pense chaque jour. J'ai son image dans ma tête. Ça m'aide. Et maman me dit... Et ça fait à vivre cet amour que tu as connu. Et c'est vrai.
J'ai ouvert mes yeux, je l'ai vu. Il y avait un grand couloir, il n'y avait personne. Ensuite, j'ai ouvert les yeux. Et il avait envie de faire l'amour. Pour l'amour en parlant. Nous, on parle. Il n'y a pas d'amour autrement. On s'est caché dans un nuage, lui et moi seulement.
Si on n'a que du physique et pas d'amour, ça ne vaut rien. Et si on n'a que de l'amour sans physique, ça ne vaut rien. C'est mon point de vue.
Mais il y en a beaucoup aussi qui meurent d'amour.
C'était Raconte-moi, une immersion au pôle EHPAD de l'hôpital de Périgueux. Épisode 2, partage et transmission. Merci à Auréa, la coordinatrice du tiers-lieu. Sacha, un des services civiques. Merci à Georgette, Serge, Armel, Isabelle, Paul, Didier, Alice, Cathy, Françoise, Marie-France, Yvette et aux résidents des unités Paro, Félibre et Douglas pour leurs témoignages. Merci aux animatrices Karine, Aurélie, Marion, Gaëlle et Élodie de m'avoir guidée et accompagnée. Un podcast écrit et réalisé par Marie-Jeanne Amour. Montage et mixage, Christophe Bertrand. Un podcast financé par la Commission des financeurs de la Dordogne et Malakoff Humanis.